Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après une interruption causée par le journée Jean Vaquier, nous reprenons l'étude du catéchisme du Concile de Trente. Nous sommes toujours au décalogue. Après avoir défendu le meurtre, le législateur suprême nous donne un commandement suivant. Vous ne serez point adultère. Et ce précepte est bien à sa place. L'homme et la femme deviennent, grâce au mariage, un seul et même corps. En effet, Dieu n'a pas créé plusieurs hommes, plusieurs femmes livrées au hasard de leurs désirs et jouissant de la liberté de s'unir ou de se séparer à leur gré. Il a créé un seul homme et une seule femme, tirée de l'homme, qu'il a destiné et donné l'un à l'autre. Et il a voulu que les deux ne fissent qu'un. C'est pourquoi, après le meurtrier qui attaque le prochain dans sa personne et dans sa vie, l'ennemi le plus dangereux pour l'homme est celui qui l'attaque dans la personne et dans l'honneur de celle qui est la moitié de lui-même. Ce commandement est très étendu et fort complexe. Il se divise en deux parties, l'une qui défend l'adultère et l'autre qui commande la chasteté de l'âme et du corps. Commençons d'abord par ce qui est défendu. Mais avant, précisons, qu'est-ce qu'à vrai dire l'adultère? Son nom lui vient du mot latin adulterari, qui veut dire à la lettre « aller à un autre », adalterum ire. Le catéchisme, avec les mots bien précis et bien sobres à la fois, le définit comme une violation du droit le plus sacré qui unit par serment inviolable les époux l'un à l'autre. Droit qui exclut toute affection déréglée avec une tierce personne. Mais il nous faut savoir que ce commandement s'applique beaucoup plus loin que la seule violation du lien de mariage. Il s'étend à tout ce que le mariage ne rend pas légitime, tout ce qui porte atteinte à la vertu de chasteté. Notre Seigneur nous a enseigné lui-même comment il fallait entendre ce précepte. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras point d'adultère. » Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Saint Thomas d'Aquin, dans son opuscule sur les 10 commandements, indique plusieurs motifs pour lesquels l'adultère, commis à l'extérieur aussi bien qu'à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'âme, est défendu. Premièrement, l'adultère perd l'âme. D'abord, il la souille, la même âme qui est lavée et purifiée avec le sang d'un Dieu. Mais après l'âme, il se prend au corps, le même corps dans lequel a été déposé un autre corps, le corps très sacré de Jésus-Christ. Nous nous lamentons à juste titre quand nous apprenons les crimes commis dans nos églises, dans des temples matériels où Dieu réside. Pourquoi donc la profanation du temple vivant de l'âme auquel Dieu s'unit nous laisse-t-elle insensibles? Ajoutons à cela que plus on livre et son âme et son corps au plaisir charnel, moins on s'en trouve rassasié. La sensation est bien rapide, tandis que le châtiment est éternel. Saint Grégoire l'avait bien dit. Un moment de plaisir, une éternité de tourment. Après la perte de l'âme, le libertinage est une cause de ruine. Il n'est pas de fortune si grande, de si riche trésor, dont ses vices ne viennent à bout en peu de temps. Ainsi, l'enfant prodigue, dont il est parlé dans l'Évangile, dissipa tout son patrimoine, en vivant dans le désordre et dans la débauche. On peut ajouter le troisième motif de la défense du libertinage, c'est que l'impureté s'attaque à l'être humain lui-même. Le monde nous dit qu'il a une grande estime pour la dignité de l'homme. Et pourtant, c'est le plaisir à outrance que ce même monde propage qui épuise les énergies de l'homme, altère sa beauté, déflore avant le temps la fraîcheur de la jeunesse et le précipite vers une vieillesse anticipée et sans honneur. Et quant aux facultés de l'âme, l'impureté altère le talent et le génie lui-même, émousse l'intelligence et la fait tourner à la brutalité. Elle éteint dans la personne tous les goûts honnêtes, pour la plonger dans la boue des voluptés matérielles. Ainsi, on n'a plus ni pensée, ni discours qui ne soit ordure. Après la défense que ce commandement nous impose, voyons maintenant la chasteté de l'âme et du corps que le bon Dieu nous commande. La chasteté a pour objet de garder le corps et l'âme indemnes de toute souillure. Elle est désignée par le nom de la belle vertu, en raison de la beauté d'une âme où l'esprit domine la matière, où la grâce domine la chair. Elle reçoit aussi l'appellation de vertu angélique, parce qu'elle rend l'homme semblable aux anges. Et s'il y a une différence entre l'homme chaste et l'ange, elle vient non pas de la vertu, mais du bonheur. La chasteté de l'ange est plus heureuse que celle de l'homme, dit saint Bernard. Celle de l'homme suppose plus de vertu que la chasteté de l'ange. Mais cette vertu ne tombe pas du ciel comme ça. Elle demande notre travail et souvent un dur combat. C'est pour cela qu'on fait des rivaux du mot latin toujours castus, chaste, celui de castra, le camp. Et rien ne fait mieux saisir ce que doit être la vraie chasteté que cette comparaison avec un camp retranché. On sait avec quel soin les Romains établissaient leur camp. Chaque fois que les légions s'arrêtaient dans leur course lointaine, elles s'entouraient aussitôt d'un réseau de retranchements assez solidement établi. De même, l'âme chaste, partout où elle se trouve, se hâte de prendre ses sûretés contre les ennemis qui la menacent et se hérisse de défense. En soi, il faut peu de choses pour faire tomber même les plus saints. David avait déjà reçu de Dieu les plus hautes marques de faveur. Et cependant, il lui suffit un seul regard indiscret pour tomber coup sur coup dans le crime d'adultère, puis dans celui d'homicide. Que les âmes ne s'étonnent pas de sentir l'aiguillon de la chair les attaquer et parfois avec une dernière violence. Saint Bernard a dit que les plus rudes combats que le chrétien ait à soutenir sur la terre sont ceux où la chasteté est en jeu. La lutte est de tous les jours, bien rare est la victoire. Voici la théorie, mais en pratique, que faut-il faire pour se bien préparer à ce combat et comment le mener jusqu'à la victoire? Nous le verrons la prochaine fois en parlant des remèdes contre l'impureté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.